Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et notre émission dans laquelle on s'interroge aujourd'hui sur le bien, le mal, les gentils, les méchants. Qui gagne à la fin? On va chercher la réponse grâce à l'expertise de notre invitée, Laurence De Villers, agrégée et docteur en philosophie, autrice de « Être quelqu'un de bien » aux éditions PUF. Alors Laurence, quand on veut être, qu'on fait tout, en tout cas pour être quelqu'un de bien, c'est pour les autres ou c'est pour soi-même qu'on fait ça?
Ni l'un ni l'autre, je dirais. Je pense que pour quelqu'un de bien, le bien, c'est quelque chose qui s'impose à moi et que je dois faire. D'abord, je ne crois pas à la zone grise où on ne saurait pas très bien ce qu'il faut faire. Je pense que toutes les personnes qui font le bien savent que c'est à la fois un appel, une urgence, une impatience. Il faut le faire. Il faut que le bien existe dans le monde. Il faut faire reculer l'injustice et le mal. Je pense que c'est ni pour soi ni pour les autres. C'est pour le bien.
Oui, ça s'impose à nous.
Ça s'impose à nous. Oui. C'est ça le mystère de la morale. Ça s'impose à nous, mais ça se fera pas sans moi.
Mais c'est à ça que servent le bien et le mal, la morale et donc la gentillesse et la méchanceté. Ça sert à gérer nos vies en société pour que ce soit pas le chaos, hein. C'est bien ça.
Alors il y a ça aussi, mais il y a une force dans le bien. Il y a une force quasi subversive, c'est-à-dire que la morale, c'est pas l'ordre établi. C'est absolument pas ça. Et si on pense qu'on agit moralement parce qu'on obéit à des convenances, des commandements, y compris des commandements divins, ou un ordre établi, en fait, on n'est pas moral. On n'agit pas moralement. L'obéissance, c'est pas ce que demande la morale. Et je pense que parfois, pour dénoncer une injustice, on peut aussi aller contre les institutions et l'ordre établi.
Vous me réjouissez. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de cinéma, où il y a souvent des méchants marquants qu'on adore d'ailleurs détester. Pourquoi on est autant attaché à ces archétypes selon vous? Ça nous rassure, je ne sais pas, de voir nos valeurs incarnées par des personnages? Je veux dire, les méchants qui tombent à la fin, ceux qui meurent parce qu'ils ont été trop méchants, ça nous fait
On a besoin de se dire une chose qui me semble essentielle, que le scandale du méchant heureux, c'est pas possible.
Oui.
Et la plupart des films finissent bien, d'ailleurs. Même quand ça finit mal, ça finit bien. À part effectivement Seven.
Où c'est noir, noir.
Où là, c'est noir parce que le héros du bien tombe dans le cycle de la violence. Alors que le héros du bien, il doit sortir de la violence. Il doit sortir de ce cycle. Donc à part Seven. Mais on a besoin de se dire, ce monde n'est pas pourri. Il y a de l'espoir dans ce monde parce que le méchant sera puni. Et le gentil, pour moi le gentil, vous demandez, est-ce que le gentil gagne à la fin? Pour moi, il a déjà gagné. Ouais.
Et même Brad Pitt peut perdre en fait, c'est ça qu'on a encore retenu.
Ça console aussi, ça console aussi.
Brad Pitt, il gagne toujours à la fin.
Ouais.
Mais voyez, le gentil, il a déjà gagné. Mais... C'est déjà juste de se mettre debout et de dire non. Il a déjà gagné.
Alors vous l'avez dit pas mal de fois déjà depuis le début de l'émission, mais parfois on est gentil et bon par conformité, mais c'est presque un réflexe. Vous vous dites, je crois que c'est important de remettre de temps en temps notre gentillesse en question pour ne plus qu'elle soit justement un réflexe et un vrai choix, c'est ça?
Ah mais c'est pas autre chose qu'un choix. Pour moi, il y a deux catégories en morale, mais c'est pas pour simplifier que je dis ça, c'est au contraire pour dramatiser les choses. Il y a la lâcheté et le courage. La lâcheté, ça fait autant de dégâts qu'un méchant actif. On peut être méchant par complicité, par indifférence, par lâcheté. Ah, c'est ton problème. Débrouille-toi, même si on ne le dit pas. Moi, on me l'a déjà dit. J'avais demandé à ce qu'on rectifie une vérité au sein d'une institution. On m'a dit, non, ce n'est pas mon problème.
Oh,
Si je l'ai fait, je pense que j'ai été méchante. Enfin, voilà. La lâcheté, le mal, il commence avec la lâcheté.
Bien sûr.
Et le bien... Je ne connais pas de gens bien qui ne soient pas des gens courageux.
Mais justement, parfois, on n'a pas. C'est pas qu'on n'a pas envie d'être gentil, mais ça nous coûte quelque chose. On prend sur soi. On est obligé de garder patience. Est-ce que c'est nécessaire cette notion d'effort? Vous disiez tout à l'heure, ça s'impose à nous, mais parfois, ça s'impose aux moyens.
Ouais. Alors ça, c'est un mystère aussi. C'est un mystère que le bien, pour moi, prenne la forme quand même
d'un effort,
un peu d'un poids.
Donc si on sent qu'on est dans un grand, grand effort face à l'autre pour être gentil, c'est qu'on a pas mal de chemin à faire encore.
Mais on a toujours du chemin en réalité. C'est pour ça que la morale, c'est pas du tout l'ordre des convenances ou de ce qui est acquis ou dicté. C'est bien ça qui est difficile. En fait, je fais le bien. Je suis gentille, non pas par faiblesse, parce que je ne serais pas capable de faire autre chose. Ça, c'est, à mon avis, la grande confusion, c'est entre gentil et benêt. Le benêt ou le trop gentil, c'est celui qui ne peut pas faire autrement qu'être gentil. Mais il y a une forme de lâcheté dans cette gentillesse-là.
Bien sûr.
Alors que la gentillesse, le sens exact, c'est toujours une force et un courage. J'aurais la force d'être méchant.
Bien sûr, mais
je fais le choix d'être gentil.
Mais Laurence, la gentillesse, c'est quand même quelque chose de relatif en plus, parce qu'elle est liée à notre morale propre et on n'a pas tous le même. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, je prends un truc très concret dans le monde professionnel. Imaginons, on est dans un conflit avec une bande et une autre bande, vous voyez ce que je veux dire ? Chacun a l'impression d'être le gentil de l'histoire. Pourquoi c'est aussi relatif ? C'est ça, c'est compliqué quand même de savoir qui est le vrai gentil dans l'histoire.
Alors, moi, je combats l'idée que la morale, c'est l'ordre du relatif. Oui. Je suis au contraire frappée de voir qu'on... une quasi-unanimité. On est presque toujours d'accord quand même pour dire ça c'est classe ce qu'il a fait, ça c'est bien ce qu'il a fait.
Et ça c'est dégueulasse.
Voilà. Et au contraire, je pense qu'il y a quelque chose de très pernicieux, voire pervers, quand on ramène la morale à du ressenti.
Ouais.
Mais c'est ton ressenti. Exprime ton ressenti.
Non.
Mais c'est pas du ressenti, Coco. C'est les conditions objectives. Parce qu'à mon sens, la méchanceté, elle est dramatique quand on fait passer une injustice pour de la justice.
Ouais.
Quand on camoufle la réalité et qu'on me dit « Mais non, attends, tu vois bien que t'es hystérique » ou « Mais tu vois bien qu'il fallait pas faire ça ». Non, il fallait le faire.
Oui.
Le bien, là, demandait à ce que je le fasse. Donc moi, j'ai une méfiance extrême envers le discours du ressenti. C'est ton ressenti.
Non.
Non, c'est pas mon ressenti.
Il y a des choses bien, il y a des choses de l'ordre
Exactement.
Du mal.
Exactement. Et il y a la vérité.
Bien sûr.
C'est vrai. C'est objectif.
Merci,
Donc, le mal, c'est quand même ajouter l'injustice au mal.
Eh bien, voilà. Eh ben, c'est...
On
n'a
pas fini, en plus.
J'adore
hein.
cette émission. On va continuer juste après avec vous le combat entre le bien et le mal, les gentils et les méchants. Et d'ailleurs, savez-vous vraiment dans quel camp vous vous situez ? Vous êtes-vous vraiment déjà regardé dans une glace avec sincérité ? Franchement, ce n'est pas facile comme exercice. On vous explique ça dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali. Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h30 et nous sommes toujours avec Laurence de Villers, agrégée et docteur en philosophie, avec qui on réfléchit à cette question. Est-ce que ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin ? Mais d'ailleurs, Laurence, qui sont les méchants au final ? Est-ce que ce sont ceux qui veulent faire du mal aux autres ou qui n'ont pas envie de se soucier de la morale ? Qui ne veulent pas choisir entre le bien et le mal ? Comment on les définit, ces méchants ?
Alors, on ne les définit certainement pas comme un certain cinéma nous les a présentés, parce que ça nous défausse de la méchanceté elle-même. C'est pas le serial killer. C'est pas
le
monstre.
Les psychopathes, c'est psychiatrique. Hein, donc
c'est pas la méchanceté. Dire il est malade ou il est fou, ça me dérange toujours. Quand on dit d'un dictateur il est fou, non, il est méchant, il est cruel. La cruauté, c'est évidemment le mal. Mais il y a un mal ordinaire. Le mal ordinaire, il mange à votre table, il partage le même bureau, il peut même parfois dormir dans votre lit.
Ouais.
Et à mon sens, la méchanceté ordinaire, qui fait beaucoup plus de dégâts en réalité, c'est celle qui consiste à se dire « Oui, je vois pas le problème.
» Vous
savez, ce nombre de méchants comptent en deux d'une certaine façon, c'est de lâcheté.
C'est la lâcheté, vous y revenez à chaque fois.
Je pense. Le mal commence avec la complicité des gentils, normalement. Mmh. C'est-à-dire de ceux qui abdiquent, qui lâchent, qui vont pas s'en mêler, qui disent même « Je vois pas le problème. » Avant même de dire « C'est pas mon problème », qui disent « Je vois pas trop. »
Donc la fin qui justifierait les moyens.
Ou l'idée que il n'y a pas de drame. Mais si, notre vie est un drame du bien et du mal. Le bien demande à exister dans ce monde. C'est un drame quotidien.
Et Laurence, quand on voit des personnes qui parviennent à leur fin en étant malhonnêtes et immoraux, qu'est-ce qu'il faut se dire ? Qu'on n'a pas eu gain de cause, mais qu'au moins on a été fidèle à nos valeurs ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. En étant déjà gentil, on a gagné ?
Ah oui, en étant déjà gentil, on a gagné.
Mais comment on se positionne face à ces gens qu'on voit ? Je pense que tous les gens qui nous écoutent vivent ça, ont vécu ça. On voit des gens vraiment qui ont des comportements vraiment très limites.
S'en tirer super bien,
ouais,
quoi.
Super bien.
Je pense qu'il faut d'abord accepter ce scandale, parce que je n'ai pas de réponse à vous donner. Il y a un vrai scandale du méchant qui prospère, du méchant heureux. On ajouterait du scandale à ce scandale en pensant que le méchant, il gagne parce qu'il est plus intelligent, il est plus fort. Non, je pense que le méchant n'est absolument pas plus intelligent, c'est quelqu'un qui a la réponse à tout. C'est un dogmatique. C'est déjà réglé pour lui le problème. Les hommes sont comme ça, machinés comme ça. Le méchant, il a déjà réglé le problème. Et je pense que c'est quelqu'un d'assez pauvre, assez faible. Il laisse libre cours à une tendance un peu facile.
Une pulsion, presque.
Donc on a le droit de se scandaliser. En revanche, je pense qu'il y a une tristesse de la méchanceté. C'est le monde du méchant est un monde glacial et triste.
Enfin, oui, c'est ça, il y a des batailles tristes finalement, et ouais, parfois on gagne tristement les choses, non ?
Exactement. Moi, l'injustice est le pire qu'on puisse éprouver et subir. Mais je préfère me dire, je vais subir l'injustice et me battre et la dénoncer, que vivre dans ce monde du méchant où l'injustice se fait passer pour la justice.
Alors Laurence, il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Se regarder dans la glace ». Vous dites que c'est très important ça, de pouvoir se regarder dans le miroir. Déjà, de faire ça, de se regarder dans le miroir, est-ce que ça fait forcément de nous des gentils, en tout cas des gens qui se questionnent pour le devenir quelqu'un de bien ?
Je pense que c'est une épreuve redoutable. Très très difficile de se regarder dans la glace, parce que la plupart du temps on veut tout faire sauf se regarder dans la glace. Et ça me semble important, cette épreuve de se regarder dans la glace, parce que ça montre que la morale, c'est pas des leçons de morale. Ça vient pas s'ajouter à ma vie, au monde, à ma conscience, comme la punition, une sorte de surmoi qui viendrait me dire fais pas ça. Non, toute conscience est une conscience morale pour moi. Exister, c'est exister moralement.
Et est-ce qu'il faut aussi se dire que la moralité vient nous rattraper à un moment donné ? Je dis ça parce que les jeunes en ce moment, ils disent, ils croient au karma, le fameux retour de bâton. Vous y croyez, vous ?
Alors moi, j'ai un problème avec cette idée retour de bâton ou karma, parce que ça
console les gentils, en tout cas, de se dire ça. Oh, il le payera
mais
bien un jour.
Mais les gentils
quoi.
Ont besoin d'être consolés parce que les méchants existent et ils peuvent même être heureux. Donc la consolation pour les gentils, c'est, je dirais même que c'est l'origine de toute religion. Faut consoler les gentils. Les béatitudes d'un certain Jésus de Nazareth, c'est heureux les malheureux, en gros. Bah oui, heureux les gentils, parce qu'ils auront consolation. Parce que ça saute pas aux yeux dans notre monde. Mais le karma, j'ai du mal, parce que pour moi, la morale, c'est une affaire de liberté. Vous n'êtes pas gentil par caractère, par défaut de caractère. Vous n'êtes pas méchant par psychologie. C'est un choix. Et c'est un choix libre.
Ah ben justement.
Donc on
justement,
peut être un salopard et être capable de gentillesse. Donc je ne crois pas à cette idée d'un poids, d'une fatalité.
Laurence, pour terminer justement dans votre livre « Être quelqu'un de bien », vous dites que devenir quelqu'un de bien ne peut être que la vocation d'homme libre. En quoi la liberté, elle est liée au fait d'être bien, gentil ? Expliquez-nous.
Y a deux erreurs, je crois. Il y a l'erreur qui fait qu'on confond benêt et gentil, alors que la gentillesse est une force. Et il y a l'erreur qui consiste à confondre morale et moralisme. Où le moraliste, c'est je devrais agir avec la peur d'être au piquet et la volonté d'avoir une récompense. Donc je me conformerai à des lois morales. La morale, c'est absolument pas ça, c'est le territoire absolu de la liberté. On le sent d'ailleurs au moment où il y a une injustice. Est-ce que je me lève et je dis que c'est faux ? Cette hésitation-là, ce moment où on se dit j'y vais ou j'y vais pas ?
C'est génial.
C'est vertige. Ça la morale.
C'est un vertige.
C'est le vertige de la liberté. Ouais. Je vais le faire ou je ne vais pas le faire ? Il y a plein de choses qui pèsent sur moi. Mon confort, mon patron, mon salaire, mon éducation. Ça pèse sur moi, on est bien d'accord. Mais ma liberté, c'est d'être capable de faire que malgré le poids de tout ça, je me lève et je dis c'est injuste.
Ah, merci beaucoup Laurence de Villers d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Ça fait du bien de parler en ces termes de la gentillesse. Merci de nous avoir aidé à suivre ce chemin pour devenir peut-être quelqu'un de bien, mais je crois qu'on l'est déjà. C'était de la philo avec des choses pratiques qu'on va pouvoir appliquer au quotidien. On passe à quoi à présent, Mélanie ?
Eh bien, les bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre. Maud Ravier, notre spécialiste beauté, va nous mettre en garde dans quelques minutes contre le stress oxydatif qui fait des dégâts sur notre peau. Et puis avec Philippine Darblay, on va décrypter cette tendance culinaire d'aller toujours vers plus de régressif. De plus en plus de chefs revisitent les desserts de notre enfance. Un programme qui va vous faire du bien encore. Alors restez avec nous sur Europe 1.